Bonjour, très chers auditeurs, voici enfin notre fameux débat sur le jeu de rôle entre podcasteurs et autour de cette table virtuelle aujourd'hui des podcasteurs avec des expériences du jeu de rôle qui sont très diverses, vu que ça va du créateur de jeu de rôle au novice qui n'en avait encore jamais fait il y a quelques mois, ce qui est intéressant au niveau diversité des expériences. Donc autour de cette table, nous avons Jean-Michel Abrassard, brillant maître des jeux lors de notre partie d'introduction que vous avez peut-être écouté. Donc Jean-Michel, je te laisse te présenter.
Voilà, je suis un podcasteur qui réalise donc deux podcasts, Scepticisme Scientifique, un podcast consacré à la zététique, et puis Par-delà les montagnes hallucinées, qui est un podcast de ce qu'on appelle de live play de jeux de rôle, donc où je poste mes parties de jeux de rôle, principalement de l'Appel de Cthulhu, mais pas uniquement.
Guillaume Vendée.
Alors moi, je m'occupe effectivement de deux podcasts aussi de mon côté, Nip Life, qui comme son nom ne l'indique pas, est un podcast sur le développement personnel, la productivité et la tech appliquée sur ces deux sujets, donc plus sous l'angle life hacking pour ceux qui connaissent un petit peu.
Et puis je m'occupe life aussi... hacking, c'est ça? C'est quoi
life hacking, comme du hacking, comme du hacking informatique et comme du hacking informatique, voilà, sur le quotidien quoi. Le nom est pas très descriptif, c'est pas très pratique à présenter, faut écouter pour s'en rendre compte. Et puis je m'occupe aussi de Tech Café, qui est un podcast beaucoup plus accessible, je pense, pour le commun des mortels, pour comprendre, c'est sur la tech en fait. Voilà.
Romaric Briand, qui n'était pas là lors de cette petite partie où on a introduit Nico au jeu de rôle, mais
je te laisse te présenter. Tout à fait, j'ai raté ma première partie de jeu de rôle de ma vie, hein. C'est la première partie de jeu de rôle que je rate, hein. J'en ai jamais raté une seule jusque-là. Ça, je suis un peu déçu, donc moi je suis animateur du podcast de la cellule, créateur d'un jeu qui s'appelle Sens Exalogie, je suis aussi créateur de jeux de société, du Val notamment. Voilà, je participe à de nombreux débats sur le jeu de rôle et je viens de faire paraître récemment un livre qui s'appelle Le Maelstrom, qui est un recueil de tous mes articles théoriques. Voilà.
La classe. Et Nico Tup, donc membre de Podcast Science, podcast de vulgarisation scientifique, tout nouveau venu au jeu de rôle, je te laisse te présenter.
T'as quasiment tout dit, donc Nico Tup, le dictateur de Podcast Science. Nous, on a un nom qui dit tout, on fait de la science, quoi. Et voilà, et donc c'était ma première expérience de jeu de rôle. Bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'était officiellement première expérience de jeu de rôle, mais j'ai beaucoup pratiqué du jeu de plateau ou d'autres trucs qui sont plus ou moins proches du jeu de rôle, donc ce sera peut-être amusant de voir en quoi cette expérience-là était différente. Ou pas.
Ou pas. Tout à fait. Quant à moi, je m'appelle David, on me connaît sous le pseudo de Xilrian, et j'ai fait pas mal de podcasts, mais je me suis un peu retiré, j'ai abandonné le monde du podcast audio pour faire essentiellement de la vidéo sur Internet récemment. Ça s'appelle Xilcast, ça se trouve sur YouTube, et ça parle aussi, disons, de vulgarisation scientifique ou de scientifique, de biographie de scientifique un petit peu étonnant, et même un petit peu de religion. Parfois, enfin bon, c'est assez divers. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer avec ce débat et commencer par une première question assez simple qui va tourner autour de votre première expérience du jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, c'est apparu dans les années 70, quasiment comme un produit dérivé des wargames de l'époque. Le jeu de rôle sous sa forme ludique est donc à peu près aussi récent que le jeu vidéo. En 40 ans, il a eu largement l'occasion d'évoluer, de se transformer, des sous-catégories sont arrivées telles que le jeu de rôle grandeur nature, et les jeux de rôle ont aussi influencé d'autres médias comme les jeux vidéo dans leur mécanisme et dans leur univers. Plus récemment, Internet a permis une multiplication des jeux originaux mais ne touchant que des publics de niche. Les points d'entrée vers le jeu de rôle étant vraiment nombreux, j'aimerais savoir quel a été votre point d'entrée et dans quelle mesure votre première expérience a été différente ou pas de l'image que vous en aviez. Et... y a-t-il un volontaire pour attaquer, ou alors je désigne quelqu'un de manière autoritaire?
Moi, je veux bien attaquer parce que je crois qu'il va avoir des aspects un peu générationnels, parce qu'en fait, il y a eu des manières différentes d'aborder les jeux de rôle, de découvrir les jeux de rôle, mais je pense qu'il y a aussi des générations qui ont découvert le jeu de rôle de la même façon, donc on verra, parce que j'ignore vos âges en général, donc on verra pour les autres, mais ma génération, donc moi j'ai 38 ans maintenant, on a tous massivement découvert le jeu de rôle à travers les livres dont vous êtes le héros, qui étaient extrêmement populaires à l'époque, qui étaient publiés par... Je bloque, là c'était Gallimard je pense. Donc les livres dont vous êtes le héros comme Loup Solitaire, il y en a toute une série évidemment. Et évidemment ces jeux de rôle nous ont fait découvrir, enfin ces livres dont vous êtes le héros nous ont fait découvrir les jeux de rôle en solo. Et puis après ils ont publié donc L'Œil Noir, hein, qui était un jeu... En fait, c'était un clone de Donjons et Dragons non officiel allemand, hein, qui est d'ailleurs toujours très populaire en Allemagne. Et c'est le premier jeu de rôle que j'ai acheté et que j'ai lu. Et puis, j'ai été voir mes copains, je leur ai dit « Oh, j'ai lu un truc que j'ai absolument pas compris, est-ce que ça vous dirait qu'on joue ?» Et voilà, c'est comme ça que j'ai, c'est comme ça que j'ai débuté. Je pense que je devais avoir quoi, je devais être en première secondaire, donc je devais avoir 12 ans à l'époque. Hein. Et donc, je pense vraiment que toute ma génération, en tout cas, par exemple, dans mes joueurs, il y a beaucoup de gens qui ont le même âge que moi, dans mes joueurs physiques, hein, mes copains qui viennent jouer, et ils ont tous découvert le jeu de rôle à travers cette voie-là, quoi.
Ah ouais, alors je confirme, hein, tous les trucs que j'anime sur la cellule, tous les gens que j'interviewe de ta génération répondent tous quasiment la même chose, sauf qu'ils rajoutent la petite boîte rouge de Donjons et Dragons.
Ah ouais, j'ai aussi acheté la boîte rouge de Donjons et Dragons, effectivement.
D'accord, c'est ok, voilà, bon. En fait, voilà. Ok, très bien.
Donc, Romaric, deux mots juste. Moi j'ai fait du livre dont vous êtes l'héros, incroyable. Et aussi amusant que ça puisse paraître, ça reprend un peu de vigueur tout doucement aux États-Unis entre autres sur les livres électroniques, parce que ça s'y prête tout à fait en livre électronique, vu qu'il n'y a plus à tourner 50 fois les pages pour tomber sur le bon numéro, mais on peut juste cliquer sur la solution qu'on choisit, quoi.
On peut même parler de la réédition assez récente, hein, des livres dont vous êtes le héros. Là, récemment, il y a eu une vague de réédition. Je ne sais pas exactement quel éditeur le fait. J'ai oublié, je n'ai pas fait de recherche. Et puis moi, je ne suis pas grand fan des livres dont vous êtes le héros. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, il y a encore des rééditions, des Loups Solitaires notamment, qui sont en train d'être effectuées. Donc, c'est encore d'actualité.
Il y a même un podcast qui est consacré, qu'on pourrait mentionner au passage, vu que...
Si tu arrives à prononcer l'acronyme, David, si tu arrives à prononcer l'acronyme.
Non, je vais te laisser le faire, je vais pas en être...
LPHD, non, c'est le podcast dont vous êtes le héros.
Dont vous êtes le héros, ouais.
PDLHD, j'y arriverai jamais, mais je suis pas dans ce podcast, il faut attendre qu'il vienne nous rejoindre pour le début.
Moi, je fais une recherche Google généralement sur le podcast dont vous êtes le héros ou le livre dont vous êtes le héros podcast. C'est comme ça que je l'ai retrouvé après intervenir dans l'un de tes podcasts. On a peut-être comptable, même si on a un petit peu lancé le débat qu'on fasse le tour. Donc, Romaric a commencé à intervenir. Donc, je te laisse te lancer sur ta première approche du jeu de rôle. En quoi est-ce que ça différait de tes attentes ou pas?
Alors je sais pas si ça vient de chez moi, mais tu viens de perdre en qualité sonore. Il y a eu une grosse baisse de tension. Ouais. Ah ouais, merde. D'accord, ok. Bon, David, tu perds de tension. Attention, fais gaffe.
Je suis désolé. As-tu compris ou veux-tu que je le...
Oui, absolument. Que je relle... ouais. On continue dans ce cas-là ou... Non, on continue, je suis d'accord. Je sais pas, c'est la première fois que...
Mon enregistrement sera bon, donc potentiellement, je pense que j'essaierai d'utiliser mon enregistrement et celui de Guillaume, et je récupérerai mon son. J'ai une piste rien que pour moi de mon côté. Donc,
d'accord, ok. Bah, moi, je suis pas habitué à ces podcasts via Skype et tous ces procédés, donc du coup, c'est pour ça que je posais la question naïvement. Alors, de mon côté, le jeu de rôle, de mon côté, je l'ai découvert via Vampire, la Mascarade, et j'y ai joué parce qu'on m'avait dit que c'était un jeu très très dangereux, parce que moi j'y ai joué bien après la fameuse affaire Mireille Dumas. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait l'affaire Mireille Dumas, qui est une si sombre histoire de médias généralistes qui s'emparent du jeu de rôle pour en faire un danger pour les jeunes, alors que c'est absolument pas le cas. Ce qu'on sait assez peu, c'est que l'affaire Mireille Dumas, eh ben, ça a aussi fait connaître en fait le jeu de rôle à certaines personnes, comme à moi par exemple. Avant, je n'en avais jamais entendu parler.
C'est l'effet Barbara Streisand.
Ouais, voilà. Il y a un petit effet comme ça, absolument. Comme le jeu, on me l'avait présenté comme étant dangereux, je me suis dit, ça veut dire que ça doit être un jeu intéressant, parce que tous les jeux que les médias généralistes présentent comme dangereux en règle générale, sont des jeux en fait intéressants. Donc du coup, je me suis précipité immédiatement dans cette activité. Et en fait, quand j'ai commencé Vampire, j'ai tout de suite compris que le jeu de rôle était le média de ma vie, que ces gens qui en faisaient allaient être mes amis, et les moments uniques, les instants magiques qu'on a vécu à ce moment-là m'ont vraiment convaincu que c'était formidable, extraordinaire et bouleversant. C'est ce que j'attendais. Donc voilà.
Pas mal. Guillaume, du coup ?
Ouais, moi c'est super rigolo de vous entendre déjà témoigner avant moi, parce qu'en fait j'ai fait aussi des livres dont vous êtes le héros, mais j'avais pas pensé à ces bouquins en préparant un peu la réponse à cette première question de découverte. Du coup je reconnais moi aussi que j'ai fait des livres dont vous êtes le héros. Moi en fait mon vrai point d'entrée de jeu de rôle, ça a été mon frangin. J'avais un frère j'ai un frère qui a 6 ans de plus que moi et qui en a fait pas mal du jeu de rôle. Et du coup, le voyant en faire, je le retrouvais autour d'une table avec ses copains et ça m'attirait plutôt. Du coup, j'ai lancé mes propres parties par la suite avec mes propres copains à moi. Je l'ai découvert notamment beaucoup avec Warhammer. On a dérivé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux de rôle qu'on a pu tester. On a fait beaucoup de Shadowrun, de Donjons et Dragons. Et on a eu une longue, longue période. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a arrêté le jeu de rôle parce qu'après, nos chemins se sont séparés. J'en ai pas refait par la suite, mais beaucoup de Monde des Ténèbres. Donc, tu citais Vampire, Romaric, mais j'ai aussi fait beaucoup de Loup-Garou. Je suis peut-être un des 10 maîtres de jeu à avoir fait beaucoup de Loup-Garou en France. Je sais pas, je connais pas les stats exactes, mais il doit pas en avoir des kilomètres. Et je reconnais que depuis que j'ai terminé mes études et que je suis dans la vie professionnelle, j'en ai plus fait, et j'en ai fait très occasionnellement, et c'était ça faisait très longtemps que j'en ai pas refait depuis cette expérience par Skype ensemble l'autre soir.
Ah oui.
Voilà, c'est à peu près tout pour moi de mon côté. Je pourrais compléter aussi par le fait que c'est quelque chose quand même qui me manque vachement, et que l'expérience par Skype me confirme le fait que ça me plaisait énormément et ça me manque toujours beaucoup, quoi. Donc il faudrait que je me dimensionne pour ça.
Ok.
Du coup, quant à toi, David,
Il nous manque Nico d'abord.
Oh pardon, excuse-moi Nico.
Ouais, alors moi, ma première expérience officielle, pour les puristes que vous êtes sans doute, c'est ce qu'on a enregistré en direct. Par contre, j'ai fait pas mal de trucs qui se rapprochent de près ou de loin de ce qu'on a fait. Donc, j'ai commencé par des livres dont vous êtes le héros, mais à peu près sans doute la même période. Enfin, j'ai 30 ans, mais c'était il y a un bon moment, quoi, où je lançais des dés, je notais au crayon à papier sur des livres, enfin des vrais livres dont vous êtes le héros. Et plus récemment, je joue pas mal à des jeux de plateau où il y a des trucs qui se rapprochent quand même pas mal de ce qu'on a pu faire, avec bien sûr des règles qui ont rien à voir. On pourra sans doute en rediscuter, mais je sais pas si vous connaissez un jeu de plateau qui s'appelle Sherlock Holmes.
Oui, bien sûr.
Qui est très très narratif, enfin qui est assez récent. Je parle du Sherlock Holmes plus récent, qui est une réédition d'un vieux, qui est très très narratif et qui pour moi se rapproche assez de ce qu'on a pu faire en jeu de rôle, sauf qu'il n'y a pas de dés, quoi. C'est peut-être un peu la grosse différence. Et puis un peu du jeu vidéo, qui pareil des fois ont des aspects tellement narratifs, pas forcément les jeux vidéo qui sont officiellement jeux de rôle, ça j'y ai peu joué, mais même des jeux vidéo très narratifs qui se rapprochent un peu de l'expérience que j'ai pu voir là. Mais voilà, donc un peu mon passif.
Non, juste, ouais, on est là, présent au top. Juste, Nico, je t'entends dire que c'est un jeu narratif, ou en tout cas que c'est un petit peu narratif, Sherlock Holmes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de mécaniques dans le jeu qui encouragent les gens à la narration. Je pense que les gens le font naturellement parce que l'univers est très développé, l'enquête est très intéressante et oblige les joueurs finalement à converser entre eux pour trouver des indices, mais malgré tout
Alors pour moi ce qui engage à la narration, c'est que t'as deux choses. T'as d'abord le fait qu'il y a beaucoup d'éléments, comme tu dis, que l'univers est assez développé, et matériellement aussi, c'est-à-dire que t'as un journal, t'as un plan, tu peux aller rencontrer des gens. Et le deuxième truc, c'est une des règles du... Voilà, t'as un support. Et l'autre, c'est que t'as une règle du jeu qui fait que, en gros, pour gagner entre guillemets, même si c'est pas le gros intérêt du jeu, il faut faire faut y trouver la solution plus vite que Sherlock Holmes. Et donc, en fait, t'as tout intérêt à rendre le moins de gens possible pour résoudre ton enquête. Et du coup, c'est là où c'est ce que tu dis. T'as tout intérêt à en discuter beaucoup, à réfléchir beaucoup, à essayer de toi-même mener ton plan sans trop aller vers la narration guidée, quoi. Donc je suis d'accord avec toi.
Il faut résoudre l'affaire.
Ouais, voilà, c'est plus déterministe. De toute façon, c'est sûr qu'on va en discuter, mais la plus grosse différence avec ce qu'on a pu avoir là, c'est que c'est beaucoup plus directif. Et de toute façon, c'est un jeu qui est préécrit, donc il n'y a pas de surprise. Mais ça me paraît pas très très loin, quoi.
On va pouvoir en rediscuter, ouais. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je ne vous entendais pas super bien récemment, ce qui vraisemblablement veut dire que ma connexion est en train de foirer.
même chose pour moi, j'entendais pas bien les autres, ouais.
D'accord. Alors du coup, c'est peut-être leur connexion. Ouais.
Ouais, t'es pas démon non plus.
Ok, alors du coup, de mon côté, je vais rapidement parler. Je suis arrivé au jeu de rôle un petit peu comme vous par les livres dont vous êtes le héros. Je jouais à Magic, donc plein de personnes me disaient ah, tu fais du jeu de rôle, etc. Je faisais aussi bah, des jeux vidéo, le jeu de rôle, le terme jeu de rôle venait aussi pour moi du jeu vidéo à l'époque. Et je suis arrivé au jeu de rôle d'abord en faisant un truc où je faisais du jeu de rôle sans savoir que je faisais du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on avait inventé avec des potes un truc qu'on appelait le jeu, où il y avait un MJ et grosso modo ça différait du jeu de rôle essentiellement dans le fait que c'était plus du... Enfin, on commandait plutôt des armées que de juste une personne. Il y avait tout un aspect développement scientifique, on faisait des recherches scientifiques, c'était cyberpunk, et puis ça s'est transformé avec le temps en une espèce de space opéra. Et on appelait ça le jeu. Alors il y en a eu plusieurs itérations, des itérations fantastiques, des itérations cyberpunk, des itérations post-apo, etc. Et puis après, on a commencé à faire du vrai jeu de rôle, à savoir Vampire la Mascarade, comme pas mal de personnes ici. Et on s'est rendu compte que c'était pas si différent que de ce qu'on faisait avant. Et voilà. Et on a pas mal kiffé et on a joué à Vampire pendant un bon bout de temps.
Mais tu me rappelles, David, que moi aussi je jouais à Magic avant de jouer au jeu de rôle. Exact, exact. J'avais complètement oublié de dire ça dans la description.
Moi aussi, Magic, ça fait pas partie des jeux de rôle là, parce que moi aussi j'ai beaucoup joué à Magic, mais ça n'a rien d'un jeu de rôle.
Ça n'a rien à voir, c'est juste que les gens, enfin la perception du public associait Magic au jeu de rôle pour des questions qui attrayaient plus à l'univers, j'imagine.
Un petit point là-dessus quand même, parce que moi justement je développe un jeu qui s'appelle Leval et qui est un jeu en rapport avec ça. Tu disais tout à l'heure, Nico, que Sherlock Holmes présentait des supports qui encourageaient les gens à la narration. Il me semble que Magic, bien qu'il n'encourage pas véritablement à la narration, encourage quand même les gens à pousse les gens à l'imagination d'un conflit entre des espèces différentes, pousse quand même les gens à réfléchir à un jeu dans aussi une certaine forme de cohérence narrative. Par exemple, la personne qui va faire un jeu elfe, elle réfléchit malgré tout un petit peu en imaginant ce que ça pourrait être d'avoir un grand maître des elfes au service de... Enfin, plutôt des petits elfes au service d'un grand maître des elfes, etc., etc. Donc il y a quand même là aussi un support, un terreau fertile pour l'émergence de jeux de rôle, à mon avis.
Ouais, alors après, ça dépend des gens. Moi, j'ai jamais eu cette façon-là de fonctionner. Hein. J'avais une approche très mécanique de Magic. Et je me prenais pas pour un maître des elfes ou un maître des rats et compagnie, ou à essayer d'avoir un jeu cohérent narrativement. J'avais vraiment une approche mécanique à me dire c'est des cartes et je veux optimiser mon jeu, mon tri, etc.
Ouais, je rejoins Nico.
Je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'univers, mais pour moi, Magic a un côté extrêmement mécanique qui fait que tu pourrais le prendre comme un jeu abstrait, quoi. Ouais, même si c'est cool qu'il y ait des images et qu'il y ait des descriptions.
Je rejoins Nico, j'irais même dire que cette cohérence entre des modes de jeu et un environnement graphique, effectivement, les morts-vivants noirs, etc., les mecs qui sont dans la forêt en vert, etc., ce serait plus des conséquences qui seraient directement liées des mécaniques de jeu, mais je mets au défi n'importe qui a joué à Magic de donner un petit peu, le background et raconter l'histoire de l'univers de Magic. Je pense que très objectivement, personne ne le connaît et personne ne sera capable de le
jouer.
Je pense que c'est essentiellement une question générationnelle. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont... j'ai 30 ans aussi. J'ai rencontré des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui étaient à fond dans l'histoire de Magic, Gérard, ça avait l'air assez ridicule. On savait juste qu'il y avait un mec qui s'appelait Gérard et qui avait un bateau volant. J'ai découvert des gens qui achetaient les livres Magic et tout, qui sont un peu plus jeunes que nous, mais qui étaient à fond là-dedans.
Il faut savoir qu'il y a même un mémoire qui a été fait sur le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mémoire qui s'appelle, je crois, 13 ans de multivers et qui recense absolument toute l'histoire de Magic depuis le début de la création du jeu.
Après, pour recentrer un petit peu le débat, avant peut-être de passer à la seconde question, il y a un point auquel vous n'avez pas énormément répondu, c'est l'aspect est-ce que votre première expérience de jeu de rôle a différé ou pas du tout de ce à quoi vous vous attendiez ?
Donc oui, si je peux me permettre. Oui, juste une dernière point sur Magic, puisqu'apparemment ouais. je suis le vieux du groupe. Moi, j'ai vécu le passage où tout le monde faisait des jeux de rôle, et puis donc vers 15 ans, j'étais dans un club de jeux de rôle, et alors Magic est arrivé. C'était la première année, parce qu'il y a, vous savez, il y a eu une période avant Magic, hein, où Magic n'existait pas encore.
Hein. C'est vrai. Avant Magic en France.
Je sais que ça vous choque profondément, mais.
Et alors, il y avait l'électricité ou pas?
C'était très marrant parce que, évidemment.
Non, mais attends, Magic est arrivé en France assez tardivement. Hein. Moi, je me souviens, avant que ça arrive, qu'au tout début où ça arrivait en France, c'était assez tard finalement. Hein.
Et donc, ce qui était vraiment marrant, c'est que dans ce club de jeux de rôle où j'étais, voilà, le groupe de jeux de rôle, tout d'un coup, le planning se remplissait de tables Magic, et puis tous les rôlistes plaignaient, mais on n'est pas un club de Magic, il faut arrêter de déconner. Donc, il y a eu toute une zone de conflit autour de l'omniprésence de Magic quand Magic a vraiment explosé, parce qu'évidemment, à un moment, Magic, ça a été le truc, quoi, voilà. Et à un moment, dans ce club, tout le monde faisait du Magic et plus de jeux de rôle, alors que c'était un club de jeux de rôle au départ. Donc, ça, c'était juste pour l'anecdote, pour les. Apparemment. Et pour répondre à la question, c'est un point encore, oui, pour les personnes les plus anciennes. Hein, et encore, moi, j'étais pas dans la toute première génération de Donjons et Dragons, mais souvent, si on écoute des vieux de la vieille de Donjons et Dragons, ben, quand Gary Gygax a publié Donjons et Dragons et qu'ils ont reçu donc la première édition de Donjons et Dragons, ils l'ont lu et puis ils se sont dit. C'est prodigieusement génial, mais je comprends pas comment le jouer, quoi. Parce que les règles n'étaient pas assez explicites et on n'avait pas de référence. Parce que finalement, il y a quand même une forte composante de transmission. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec un maître de jeu et c'est lui qui finalement t'apprend à jouer. Mais je veux dire, quand tu as juste le livre à l'époque, en tout cas, et moi j'ai vraiment eu ça très fort. Donc dans ma génération, quand on se chopait l'œil noir ou la première boîte rouge de Donjons et Dragons, donc c'était Donjons et Dragons première édition en français. Voilà quoi, quand on est pré-ado et qu'on lit ça, on se dit comment c'est en pratique, comment on joue à ça, quoi. C'était l'impression, et donc toutes mes premières parties étaient complètement foireuses parce qu'on savait pas ce qu'on faisait, quoi, ça c'est clair, quoi. Ouais.
Nicotup, je pense que tu peux dire que ta première partie était foireuse, hein, c'était la bonne partie de l'appel de Cthulhu.
Merci. j'ai pas joué mon rôle d'initiateur convenablement.
Désolé Jean-Michel. Non mais ce qui est intéressant, c'est cette histoire de jeu de rôle qui est difficile à appréhender sans base. Moi, étant donné que justement la première fois que j'ai découvert le jeu de rôle, je l'ai appris, j'ai été pris entre les mains d'un meneur de jeu qui savait y faire et qui était déjà compétent dans ce domaine. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, si tu veux. Donc voilà, c'est.
Moi, c'est assez marrant parce que la première fois que j'ai fait du vrai jeu de rôle, donc du vampire ou de notre jeu un peu inventé, finalement dans les deux cas, j'étais MJ. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple dans les mécanismes que Magic, justement. Magic, auquel notre groupe a appris à jouer à partir du bouquin de règles, qui était juste horrible à l'époque. C'était vraiment...
Magic, c'est affreusement dur. T'as un nombre de cas particuliers et compagnie. Il faut lire les cartes. Vois par rapport à plein de jeux de cartes qui se font aujourd'hui, c'est aberrant comme c'est dur Magic pour le plaisir de jeu que t'en retires. Il y a plein de jeux maintenant qui sont plus faciles et où tu retires le même plaisir de jeu. Je suis désolé pour les puristes, hein, mais
Et Internet qui a apporté la possibilité d'aller chercher les vraies réponses aux questions de règles qui étaient incompréhensibles à la base.
Ouais. Bon, par contre, quitte à vous titiller sur qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, je crois qu'aussi une des expériences que j'ai pas citées là et qui pour moi est pas très très loin aussi de certains aspects du jeu de rôle, c'est que moi j'ai fait de l'impro pendant 5 ans. Impro théâtrale.
Ah putain, Nico, tu grilles. Attention, t'es en train de griller ma réponse à la deuxième question là.
Ah
attention.
Merde, désolé.
En fait, je suis totalement d'accord avec Nico sur la définition, par exemple, que tu as donnée, David, au départ dans le podcast. Je pense qu'on va se rejoindre avec Nico pour dire que attention, le jeu de rôle existe depuis AD&D, peut-être pas. Peut-être qu'il existe depuis la Commedia dell'arte, je ne sais pas.
C'était une question que je voulais poser.
Il y avait dans sa forme actuelle, parle. Dans la question de David.
J'ai dit ludique, mais jeu de rôle ludique. Mais oui, mais enfin, on va en parler plus tard. Mais ça m'avait étonné justement beaucoup que Nico ne cite pas l'impro comme inspiration ou quelque chose de proche. Mais vas-y, maintenant, lance-toi.
si tu veux, c'est là où c'est marrant, c'est que pour moi l'impro c'est pas du tout la même démarche entre guillemets quoi. Mais c'est là où je pense que j'ai pris un préjugé sur le jeu de rôle avant d'y jouer qui était peut-être pas bon. C'est que je me suis dit le but d'un jeu de rôle c'est de jouer et le but de l'impro c'est de raconter une histoire. Et c'est peut-être là où je me suis trompé sur le jeu de rôle justement quand tu dis qu'est-ce qu'on a découvert qui était pas comme ce qu'on attendait. Je pensais que le jeu de rôle était plus proche du jeu. Que de la narration, et en fait j'ai l'impression que c'est un peu plus l'inverse, en tout cas de l'expérience que j'ai eue là quoi.
Bon, je pense qu'il est temps qu'on passe à la deuxième question. Non.
Oui.
Alors, le jeu de rôle comme forme de narration récente. Les différentes formes de narration ou manières de raconter une histoire sont apparues parallèlement au développement des techniques. À une époque où la production d'écrits était un processus long, les récits oraux ou le théâtre dominaient, puis l'imprimerie a permis la multiplication des romans, la radio a vu naître les fictions audio, les films n'existaient pas avant l'invention des frères Lumière, les séries n'existaient pas avant la télévision, les jeux vidéo ont suivi de près l'apparition de l'informatique. Pourtant, le jeu de rôle semble faire exception dans son développement semble pas vraiment être lié à des contraintes techniques. Pareil pour le livre dont vous êtes le héros, d'ailleurs, apparu dans les années 40, alors que, on aurait pu... techniquement, ça aurait pu apparaître bien avant. Alors, hasard ou raison plus profonde, j'aimerais avoir vos avis sur la question. Et, alors, Romaric avait l'air très, très, très motivé pour y répondre. Donc,
je suis pas d'accord. Alors, je crois que c'est la plus longue réponse que je vais faire durant tout cet entretien, parce que vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec
l'intitulé de la question.
Voilà, tout à fait. Alors, la question, déjà, présuppose une première erreur sur ce qu'est le jeu de rôle, à mon avis, parce que faut être très précis. Le jeu de rôle, ce n'est pas une forme de narration. Le jeu de rôle, ce n'est pas un outil pour raconter des histoires, en fait. Hein, c'est un outil pour créer des histoires. Et c'est bien différent. Une analogie, alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, on sait que l'analogie peut faire des miracles. Mais manger un repas, ce n'est pas cuisiner le repas. De la même manière, le jeu de rôle propose de faire de la cuisine, en fait. Hein. Et la plupart des médias qui proposent de vivre des histoires proposent non pas de faire de la cuisine, mais de manger le repas. Et c'est pas la même chose. Par exemple, la littérature, elle propose de dévorer des livres. Le cinéma propose de regarder des films. Le jeu vidéo propose de choisir l'ordre dans lequel on dévore son repas et dans lequel il sera dégusté. Mais en fait, le repas, il a déjà été cuisiné en amont par des développeurs. Le jeu de rôle, lui, il ne raconte pas d'histoire en lui-même. Il propose à des joueurs de créer une histoire, de créer un repas. En suivant peut-être des recettes, en suivant peut-être des lignes directrices qui ont été faites par un grand chef avant, qu'on appelle l'auteur du jeu. Et voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, et ça, moi je l'ai récemment montré hein, dans l'article intitulé « Le Maelstrom », je fais de la pub pour mon bouquin en même temps, et je dis, le jeu de rôle permet de créer un Maelstrom, en fait, qui est une réflexion collective à l'évaluation possible pour le plaisir de créer ce que j'appelle le contenu fictionnel malléable, pour ne pas nommer une fiction, justement, ensemble, et c'est tout. Alors, je continue comme ça, je déroule le tapis, ou vous avez déjà des remarques à faire par rapport à ça?
Moi, j'ai juste peut-être une remarque, c'est plus pour me faire l'avocat du diable, Romaric, mais les cas de création à 100% tels que tu les décris, dans ma vision des choses en tout cas, ça reste limité. Je veux dire, les scénarios qu'on fait, moi j'ai beaucoup écrit mes scénarios, mais je suis pas certain que ce soit la majorité des maîtres de jeu. Je pense que la majorité des maîtres de jeu s'appuient sur des trames plus ou moins linéaire de scénario qui finalement me font beaucoup penser à la manière dont est construite le jeu vidéo. Je trouve que ton analogie pour décrire comment est construit le jeu vidéo est très intéressante, parce que tu expliques toi-même que beaucoup de choses sont prévues par les développeurs et les joueurs restent dans ce cadre. Finalement, dans le cas du jeu de rôle, est-ce qu'il y a... Alors oui, il y en a, mais est-ce que c'est la majorité des cas où les joueurs et le maître du jeu transgressent son scénario? Je sais pas.
C'est absolument... Guillaume, c'est absolument génial. Tu me permets de faire... Alors, excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir.
Ouais, juste pour compléter comme ça ce que disait Guillaume en deux mots, et je rajouterais même, moi j'ai surtout l'expérience donc de la dernière fois, j'ai l'impression que dans le jeu de rôle de la dernière fois, c'était pas très propice à de la création d'histoire. Par contre, c'était assez propice à se balader dans l'histoire, et voire même à aller dans des endroits qui n'étaient pas forcément prévus par le maître du jeu, mais c'était pas propice à de la création d'histoire. Quoi.
C'est fantastique.
Contredira Jean-Michel si tu.
Non, mais juste un peu nuancé parce que je pense qu'il faut quand même, se rendre compte qu'il y a différents jeux, quoi. On va y arriver, mais je veux dire, par exemple, au niveau de l'utilisation de scénarios, par exemple, il faut savoir, par exemple, que pour Donjons et Dragons, dans la culture Donjons et Dragonesque, il y a une culture de acheter des scénarios ou lire des scénarios faits par d'autres. C'est pour les nuls et un bon meneur de jeu de Donjons et Dragons fait son propre donjon lui-même. Et voilà, quoi. Par contre, dans l'appel de Cthulhu, c'est vrai qu'il y a un rapport au scénario qui est très différent. Il y a des campagnes qui sont extrêmement célèbres, etc. La communauté des joueurs de l'Appel de Cthulhu ont un rapport très différent au scénario. Ça, c'est première remarque. Donc, tous les jeux de rôle ne sont pas égaux devant ce qu'on est en train de discuter. Je ne mets pas de jugement de valeur sur quelle soit la bonne chose. Hein, parmi ça, je contraste juste deux communautés qui sont très contrastées de ce côté-là. On le sait parce qu'au niveau des ventes, par exemple, l'Appel de Cthulhu vend énormément de scénarios et ça se vend bien. Quoi, je veux dire, si on voit tous les Kickstarter de scénarios qui maintenant ils explosent en général, Donjons et Dragons ne vend pratiquement pas de scénarios, ça se vend pas bien. Quoi, hein. Ils vendent des manuels, des suppléments, etc. Mais des scénarios, ça se vend pas si bien que ça pour Donjons et Dragons.
Absolument. Oui, pardon, tu voulais ajouter une remarque, excuse-moi.
Oui, il y avait un autre élément, juste maintenant je l'ai oublié, attends, une seconde. Oui, alors évidemment, pour les gens qui pratiquent moins le jeu de rôle, bon, dans les scénarios, il y a deux scénarios types. Hein. On pour introduire un peu de vocabulaire technique, il y a les scénarios railroadie en anglais, sur des rails en français, voilà. J'aurais à apprendre.
Toboggan, on appelle ça des toboggans et des bacs à sable.
Voilà, il y a l'autre, c'est les bacs à sable, un sandbox en anglais. Et évidemment, c'est deux approches très différentes. Moi, je pratique les deux. Dans l'appel de Cthulhu, il y a les deux. C'est vrai que ça propose une expérience très différente aux joueurs. Je veux dire, si tu as une approche bac à sable, ils ont un environnement et puis ils font ce qu'ils veulent dans l'environnement. Et c'est eux qui vont chercher, qui vont créer le plus l'histoire. Le scénario qu'on a fait la semaine dernière était évidemment beaucoup, enfin, toboggan, pour utiliser le vocabulaire de Romaric, quoi, ou sur des rails, beaucoup plus dirigiste, évidemment, quoi. Voilà, c'était alors, juste pour mettre des nuances.
Là, il va vraiment falloir. Là, je vais vous faire très très mal en fait, hein, parce que je pense que je crois que vous, en fait, vous confondez le jeu de rôle avec ce qu'on appelle le dispositif classique. Et donc, je vais poursuivre un petit peu. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que David, tu penses que finalement le jeu de rôle est une forme de narration ? Eh bien, c'est parce que je pense, je fais une supposition sur toi, d'accord, je fais un peu ma Madame Irma, ma Madame Soleil, je pense que tu n'as fait finalement l'expérience que du jeu de rôle classique, avec un meneur de jeu qui encadre l'histoire que vont vivre des joueurs. Or, ça, le jeu de rôle classique, le maître de jeu et les joueurs, ce n'est qu'une forme de jeu de rôle parmi les autres, et ça, c'est ce que peu de gens, en fait, en réalité, savent. C'est qu'en fait, le dispositif classique n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le seul dispositif qui existe. Et il est clair que le dispositif classique mène à, on va dire plus facilement, mène un meneur de jeu à devenir le narrateur d'une histoire qu'il a préparée en avance et qu'on appelle un scénario. Alors, on a des études assez récentes, hein, entre 2000 et 2006, plutôt 2006 d'ailleurs, avec notamment un forum qui s'appelle La Forge, ont montré en fait que ce type de dispositif, à savoir le dispositif classique, un meneur et des joueurs, donc celui qui est mis en place par exemple Vampire la Mascarade, est en fait un dispositif qui est dysfonctionnel parce qu'il propose en fait à des joueurs d'être les héros d'une histoire qui elle-même est en amont préparée par un meneur de jeu. Et si on réfléchit bien, ça veut dire que les actions des personnages des joueurs sont censées être l'histoire, mais qu'en parallèle, il y a un meneur de jeu qui a déjà prévu des actions, donc bam, contradiction. En fait, on se retrouve dans une situation dans laquelle les joueurs sont à la fois libres et non libres, puisque le meneur a en fait contrôle de l'histoire. Vous voyez où je veux en venir ? Si on définit l'histoire comme étant ce que prépare le meneur en amont, ou en tout cas comme une succession de scènes, ce qu'on appelle un scénario, et si en même temps on dit que l'histoire ce n'est rien d'autre que les actions des personnages héros de cette histoire, alors on a une sorte de paradoxe, un espèce de clash qu'on appelle le truc impossible avant le petit-déj. J'invite les auditeurs à se renseigner sur cet article. Le truc impossible avant le petit-déj, qui est le paradoxe du jeu de rôle dit classique.
Et donc, une remarque sur ton paradoxe du jeu de rôle classique. Concrètement, le jeu vidéo comme il est construit aujourd'hui, il remplace le maître de jeu par un ordinateur, et pour la plupart des jeux, et donc tu as l'ordinateur qui fait dérouler, comme tu dis, l'histoire, et fait que le joueur peut aller sur plusieurs rails, ou comme c'est un ordinateur, il peut y avoir un millier de rails, il peut avoir une impression de construction. Sauf que depuis, on a expérimenté des choses qui étaient beaucoup plus libres et où en fait tu avais un maître du jeu. Alors je donne des équivalents jeu de rôle, jeu vidéo, parce que j'ai pas d'équivalent jeu de rôle, mais je suis sûr que ça existe, où tu as un maître du jeu qui est juste là pour faire avancer selon un framework, mais qui est pas directeur de l'histoire. Un jeu vidéo récent qui a un peu mis ça, où des gens pouvaient se raconter des histoires sans que ce soit le jeu qui les ait prédécidés, c'est Minecraft.
Tout à fait.
Ça me paraît complètement pas rentrer en contradiction avec ton truc où il y a quand même un maître du jeu qui est là pour contrôler que le framework est respecté, quoi.
En fait, le truc de Minecraft, c'est que Minecraft propose un support pour faire du jeu de rôle. Mais les gens qui font du Minecraft, par exemple, le meneur de jeu qui va choisir de faire un donjon en Minecraft et d'y faire jouer ses joueurs à l'intérieur du donjon, on va avoir ici affaire à un véritable jeu de rôle, puisque le contenu fictionnel que les joueurs se racontent va avoir une influence sur les actes que les personnages vont faire à l'intérieur de ce donjon. Donc là, on est dans une authentique partie de jeu de rôle qui utilise un autre support que les papiers et les crayons. C'est juste qu'on utilise un ordinateur pour faire du jeu de rôle, mais je vois pas c'est juste qu'on utilise le dispositif classique avec un autre support, comme on utiliserait le dispositif classique à travers Skype plutôt que de le faire à travers autour d'une table ou à travers les ondes qui passent dans l'air. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, pour moi, c'est...
Ouais, un peu.
Alors, une chose est sûre, c'est que...
Juste une petite remarque méta sur le débat, c'est que je pense qu'on s'éloigne très fort de la question.
Oui, exactement.
David, t'avais l'idée d'un débat cadré, alors...
Oui, je vais peut-être recadrer un tout petit peu. Votre discussion est très intéressante. C'était pas tout à fait ma question.
Je voulais y répondre. C'est juste que pour moi, et c'était important de préciser dans quelles conditions répondais à ta question. Parce que moi, du coup, la réponse à mes questions, c'est sur le fait que le jeu de rôle soit récent. Ma réponse est non. Le jeu de rôle, en fait, existe depuis, encore une fois, la Commedia dell'arte et le théâtre d'improvisation. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, je pense que l'idée du jeu de rôle n'émerge pas du tout dans les années 70, qu'elle émerge en fait bien avant, mais c'est juste que Gary Gygax a inventé Donjons et Dragons et que là, on s'est mis à appeler à ce type d'activité, c'est-à-dire du théâtre d'improvisation encadré avec certaines règles particulières, on s'est mis à l'appeler du jeu de rôle et à le vendre dans des boîtes rouges. Mais en fait, l'activité existait bien avant. Et pour répondre, je finis, hein, là c'est vraiment fini, dernier point, pourquoi est-ce que le jeu de rôle émerge plus dans les années 70? Tout simplement parce qu'en fait les gens, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Olivier Caïra qui a travaillé sur ces questions, notamment dans un livre qui s'appelle Les Forges de la Fiction, qui explique qu'en gros, autour des années 70, les gens avaient des médias, c'est-à-dire la radio, la télé, le cinéma, qui leur permettaient d'avoir une assise culturelle commune et qui leur permettaient donc de pouvoir partager cette culture en commun. Avant que chacun s'entende sur la définition du vaisseau et avant que chacun ait vu un vaisseau spatial dans Star Wars, personne ne pouvait faire du jeu de rôle sur ces vaisseaux spatiaux parce qu'on n'avait pas les mots pour les dire, on n'avait pas la représentation commune, culturelle, suffisante pour pouvoir jouer avec ces mots-là. Donc voilà pour ma réponse. Et là, j'arrête. C'est promis.
Ok, bon, je vais donc continuer. J'aurai peut-être quelques petites réactions, mais je les ferai à la fin. Donc finalement, seul Romaric pour le moment a répondu. Bon, la prochaine fois, je check vraiment les 2 minutes. Parce que là, t'as fait une première réponse à la question qui était en dessous des 2 minutes. Et il y en avait 3 autres qui arrivaient derrière.
Mais, juste pour info, c'est la seule question qui est vraiment longue et bien développée pour moi. Sinon, les autres, j'y répondrai de façon lapidaire. Okay. Je vous laisserai la parole.
Il n'y a pas de souci. Qui est volontaire pour continuer le tour de table? Allez, Guillaume.
Alors écoute, moi j'ai vraiment du mal en fait à répondre à cette question. D'une part parce que j'ai peut-être pas une vision suffisamment affinée de l'histoire, de la narration, etc. Je suis en tout cas super intéressé par la réponse de Romaric qui met en avant le besoin d'avoir un repère culturel sur un certain nombre d'idées pour pouvoir permettre de faire émerger ce type de médias, si j'ose dire. J'avoue que j'ai pas de bonne réponse. J'ai même pas de réponse complètement affinée sur le sujet. J'ai juste l'impression que peut-être que technologiquement parlant, c'était possible de produire suffisamment de livres à grande échelle avec des coûts relativement accessibles pour tous se mettre à niveau sur quelque chose d'aussi complexe qu'est par exemple les règles de Donjons et Dragons. Voilà, j'ai pas vraiment de bonnes réponses et je suis sûr qu'il y aura des meilleures réponses de la part des autres participants en tout cas.
Jean-Michel ?
Oui, juste, juste pour être clair avec les auditeurs, j'ai préparé des réponses à l'avance, donc je vais donner la réponse que moi j'avais préparée, hein, sans entendre ce que les autres avaient à dire sur le sujet, puisque évidemment moi je vais être un peu, je suppose, le défenseur du jeu de rôle traditionnel, parce que je ne pense pas du tout qu'il est dysfonctionnel, évidemment. Mais ceci dit, ma réponse de départ, j'ai plein d'éléments communs justement avec Romaric, qui était... on a toujours raconté des histoires, et pour moi, je pense que le jeu de rôle, c'est du storytelling, hein, c'est de raconter des histoires, et donc, je veux dire, voilà, quand un homme des cavernes s'est mis autour du feu et a commencé à raconter une histoire aux gens qui l'écoutaient, finalement, c'était du proto-jeu de rôle, hein, il n'y a pas de... Pour moi, c'est un peu comme ça. Pour moi, c'est je pense que voilà. Mais maintenant, quand on dit comédia dérailée, ça me parle. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est des variations finalement de la même activité pour moi. Bon, voilà. Après, Gary Gygax a inventé une nouvelle variante de cette activité qui est raconter des histoires les uns aux autres ou raconter collectivement des histoires. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le jeu de rôle n'a pas fondamentalement été inventé dans les années. Enfin, par Gary Gygax, quoi. Je veux dire, il a inventé une variante de l'activité, finalement. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et alors, aussi, c'est marrant, j'avais un point très similaire à ce que Romaric a évoqué, qui était... parce que ma conception du jeu de rôle, ou qu'est-ce qui fait pour moi que le jeu de rôle est quelque chose de culturellement très important ou très intéressant, c'est qu'on, pour moi, c'est qu'on s'approprie, en fait, les productions culturelles. Et donc, souvent, c'est vrai que Romaric l'évoquait, on est des consommateurs passifs d'Hollywood ou de la littérature, etc. Et pour moi, le jeu de rôle, finalement, ce qui forme l'essence du jeu de rôle, c'est que c'est une forme d'appropriation de ces produits de masse qu'on nous fourgue. Et je pense que finalement, voilà, c'est une combinaison. À un moment, au moment où toutes ces, voilà, les jeux, les films, puis les jeux vidéo, etc., nous bombardent sans arrêt de choses, de produits à consommer, où on est relativement passif devant. Le jeu de rôle, finalement, pour moi, ne pouvait qu'émerger comme une forme de réappropriation. L'aspect, c'est juste du papier et des dés, ben c'est ça, parce que ça permet à tout le monde de se réapproprier. Je voulais comparer ça aux gens qui font du modding de jeux vidéo, justement, par exemple dans Skyrim. Bon, Skyrim, c'est un bel exemple de sandbox, by the way, au fait, et où on peut faire ce qu'on veut dans une sandbox. Hein. Mais alors, bon, il y a des gens, voilà, ils vont faire du modding, ils vont créer leurs propres choses à l'intérieur du moteur de Skyrim. Mais évidemment, ça demande des compétences, des longues heures de travail, etc. Finalement, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui demande au final peu d'efforts et ça nous permet de ne plus être passif, on peut se réapproprier. Par exemple, moi, à travers l'appel de Cthulhu, pour le moment, j'ai commencé à jouer à l'appel de Cthulhu il y a peut-être une dizaine d'années. Avant, je jouais à d'autres choses, hein, mais bon. Pour prendre un exemple, comme on en a déjà parlé, l'appel de Cthulhu, pour moi, bah, ça me permet de rapproprier le mythe de Cthulhu, quoi, un mythe sur lequel des tas d'autres auteurs ont travaillé, et puis on va se l'approprier, on va le faire soi, et on va lui redonner une vie, notre propre vision, quoi. Voilà.
Attention au bip.
Totalement d'accord avec Jean-Michel.
Totalement d'accord avec. Je peux rebondir, moi, sur ce que dit Jean-Michel, là?
Bah, tout à fait, surtout que c'est ton tour. Du coup, tu.
Ah, c'est merveilleux. Alors, moi, j'ai pas préparé ma réponse, donc je vais rebondir sur ce que dit Jean-Michel. Et je vais reprendre un truc qu'il dit, je pense que vous allez tous être d'accord, et quand il dit, le jeu de rôle, c'est du papier, des crayons, et je rajoute du papier, des dés plutôt, et je rajouterai même une table, quoi. Pour vous rappeler quand même un truc, là, je vais faire mon improvisateur de service. Que l'improvisation, justement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dés, et des tables, il y en a éventuellement dans une catégorie table. Mais il y a quand même une grosse, grosse différence. Je veux bien que, philosophiquement, on se dise que l'improvisation, le théâtre, était un peu du jeu de rôle sous une autre forme. Mais mine de rien, il y a quand même une sacrée différence. Dans l'improvisation et dans le théâtre, il n'est jamais question de dés, sauf éventuellement dans des catégories, mais en tout cas, il n'est jamais question de points, de points au sens compétences, etc.
Nobilis, ce sont des jeux de rôle, il n'y a pas de dés, hein.
Mais voilà, je connais pas tout le jeu de rôle, alors je sais bien que je vais y avoir des exemples, mais c'est tout dans le tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas non plus, il y a un côté de corps, c'est-à-dire que peut-être que je connais pas non plus tous les jeux de rôle, mais il me semble que les jeux de rôle se font quasiment exclusivement autour d'une table.
Et grandeur nature.
L'improvisation, ça se fait debout, physiquement, etc. Alors, il y a des jeux de rôle grandeur nature, mais c'est encore autre chose. Il n'y a pas de concept de scène, par exemple. Il me semble qu'il y a quand même des règles assez différentes. Et pour finir, là, c'est sur l'expérience d'improvisation et de narration. C'est là où je pense qu'il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est que les méthodes et les outils de l'improvisation pour raconter des histoires ont rien à voir avec ceux du jeu de rôle. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux ou l'autre, mais l'improvisation et le théâtre vont avoir tendance à se mettre des contraintes pour raconter une histoire. Le jeu de rôle va aussi se mettre des contraintes, mais qui ne sont pas vraiment de la même forme, je trouve. C'est un peu l'impression que j'en avais.
Donc,
pense qu'il y a une apparition qui est faite.
Nico, mais, là, il faut que tu donnes des exemples du type de contraintes qu'il y a dans l'improvisation et du type de contraintes qu'il y a dans le jeu de rôle pour les auditeurs. Enfin, je suis a priori d'accord avec toi, mais le balancer comme ça, c'est un peu trop, c'est trop facile.
Mais je suis d'accord, t'as raison. J'y ai pensé en le disant que c'était un peu facile. En fait, je pense qu'il y a des contraintes en commun. C'est surtout ça sur quoi il faudrait commencer, parce que si on se met à se battre sur le fait qu'il n'y a aucune contrainte en commun, on ne gagnera pas, parce qu'il y a des contraintes en commun. Toutes les contraintes qui sont de dire tuer tel personnage, ça, c'est des contraintes qui existent aussi bien en improvisation qu'en jeu de rôle. Alors, des fois, on peut se construire son personnage, mais ça existe des deux côtés. La contrainte de lieu peut exister des deux côtés. En improvisation, il peut y avoir des contraintes. Tout ce qui est contraintes physiques, elles n'existeront pas dans le jeu de rôle parce que elles ont pas vraiment de sens. Enfin, on pourra te dire t'es bossu, mais ça aura pas un impact énorme sur le jeu de rôle. Quand on va te dire t'es bossu et t'as du mal à marcher en improvisation, ça va complètement changer ta façon d'être. Il y a des contraintes en improvisation. Il y a une catégorie évidente où ça va faire une différence. Tu ne peux pas parler. Et alors, en jeu de rôle, ça peut exister, mais de toute façon, tu vas parler pour dire ce que tu fais. Donc déjà, ça fait des différences. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il y a une
approche
différente et que c'est intéressant.
Tu es en train de poser
quelque chose de différent qui est arrivé quand même et qui propose une manière de faire différente.
L'improvisation telle que Nico l'entend, c'est-à-dire je sais pas exactement comment on appelle ça, le théâtre d'improvisation. Faut préciser que donc les improvisateurs, enfin les acteurs doivent jouer donc selon des contraintes, les contraintes dont tu parles, qui leur sont fixées un organisateur.
Je vais préciser ça, c'est hyper important, t'as raison. Un peu comme dans le jeu de rôle, il y a Donjons et Dragons et Cthulhu et puis d'autres. Dans l'improvisation, il y a deux grandes familles qui sont pas forcément disjointes, mais en tout cas deux grandes familles. Il y a les matchs d'improvisation et il y a l'improvisation théâtrale qu'on pourrait dire de cabaret. Les matchs, c'est vraiment deux équipes qui se rencontrent et ça, c'est une contrainte aussi. Je sais pas si ça existe en jeu de rôle, mais où l'intérêt des matchs d'improvisation, c'est qu'en gros, ils créent des histoires. Chacun, ils ont leurs règles des deux côtés, ils ont leurs équipes qui se connaissent et ils se rencontrent sur scène pour raconter une histoire. Après, les matchs d'improvisation, la particularité, c'est que c'est un peu un sport, ça va très vite. Il y a un arbitre, un pseudo-arbitre qui met des points, qui siffle, etc. Et donc, le théâtre d'improvisation plus cabaret, ça peut être des scènes plus longues. Et en général, il n'y a pas de contrainte de temps clair. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui arrête quand ça devient chiant. Et très souvent, il y a des catégories qui viennent s'imposer, une ou deux catégories, pendant les improvisations. Là où dans le match, ça peut être du tout et n'importe quoi, plein de catégories, très, très minutées, etc.
Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, t'es juste en train de dire que là, on a affaire à deux jeux de rôle, mais avec des contraintes différentes. Moi, je te suis à fond là-dessus.
Mais je pense que pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu une improvisation, mais de livre. Et je pense que le côté livre est pas à nier. C'est-à-dire que l'improvisation théâtrale, on improvise du théâtre, on improvise, donc, du coup, tout ce qui est de l'image, du cinéma, etc. Pour moi, dans l'improvisation, dans du jeu de rôle, on fait de la création d'histoires littéraires plus basées sur de la logique de livre et de la façon de narrer des livres que de la façon de narrer de l'image et du cinéma et du visuel.
Dans ce cas, tu nies au jeu de rôle grandeur nature son aspect de jeu de rôle et tu dis qu'il s'agit du théâtre d'improvisation.
Honnêtement, le jeu de rôle grandeur nature, j'en ai jamais fait, j'en sais rien. Pour moi, c'est un peu un autre débat parce que rien que le fait que si c'est un peu grand, chacun va vivre son histoire un peu différemment. Donc, c'est enfin, pour moi, je le mets même pas proche du théâtre ou du cinéma, donc je sais pas, faudrait que j'en fasse un pour voir, quoi.
Mais du coup, ça me ferait vous poser une question pour essayer d'affiner un peu l'idée. Si j'essaie de faire un parallèle, je sais pas, vous avez sûrement vécu comme moi ces formations en entreprise d'ailleurs ou pas, hein, mais
il y a toujours. C'est du jeu de rôle.
Voilà. Alors justement, ils présentent ça comme du jeu de rôle. Ils te font une présentation magistrale et derrière ils disent on va faire une séance de jeu de rôle sous-entendu pour impliquer les gens. Mais c'est du jeu de rôle ou pas?
Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça existait avant le jeu de rôle ludique, les jeux de rôle.
Alors, ce que j'ai connu, moi, justement, c'est des petites scénettes d'improvisation, quoi.
Alors, attention. Attention. Donc, par rapport aux formations professionnelles, ce n'est pas du jeu de rôle dans la mesure où, alors, c'en est et c'en est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeu de rôle ludique. C'est du jeu de rôle, voilà. Parce que il y a, c'est comme, si tu veux. Pour bien comprendre, le jeu de rôle, c'est un média qui consiste à organiser autour d'une table ou dans un champ ou quelque part, donc ça peut être aussi dans une entreprise, il n'y a aucun problème, c'est un média qui consiste à organiser ce que j'appelle encore une fois un maelstrom, c'est-à-dire un ensemble de gens qui brainstorment sur des situations possibles, c'est-à-dire qui réfléchissent à des situations possibles. Donc, le jeu de rôle d'entreprise, c'est un jeu de rôle, mais attention, la plupart du temps, ce jeu de rôle vise la formation d'individus. Donc, les contraintes s'exercent sur les gens qui sont en train de brainstormer et de réfléchir aux situations possibles dans le contexte de ce jeu visent à leur attribuer des véritables qualités professionnelles. Alors que le jeu de rôle au sens ludique, le contenu fictionnel malléable qui est créé, c'est-à-dire l'activité qu'on pratique, n'a d'autre but qu'elle-même. C'est un peu la différence entre un marteau qui est créé pour taper sur des clous, ça c'est le jeu de rôle d'entreprise, et un marteau qui est créé pour être exposé dans un musée, ça c'est le jeu de rôle ludique. C'est-à-dire que le marteau qui est fait pour être exposé dans un musée n'a d'autre fin que lui-même. Et de la même manière, les fictions que les rôlistes se racontent entre eux n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes. Alors que dans une entreprise, le but de la fiction, c'est de te faire posséder des compétences qui vont te servir ensuite dans un grand jeu de rôle qu'on appelle la réalité.
Donc il est plutôt porteur de sens, quoi.
Tu vas faire une transition là.
J'essaye.
Et tu as raison.
David, j'avais juste un autre exemple par rapport à ta question qui met pour moi encore une différence. C'est aussi la durée d'un jeu de rôle par rapport à la durée d'une improvisation justement théâtrale. Et ça, c'est pour moi, c'est intéressant. Alors, j'ai découvert que des jeux de rôle pouvaient être courts, sachant que court dans un jeu de rôle papier entre guillemets, ça veut dire une heure et demie, si j'ai bien compris.
20
long, long, très long dans une improvisation théâtrale, ça veut dire une heure et demie, et j'en connais très peu. Et en général, c'est 5-10 minutes, à tout casser, quoi.
Ouais. Alors, juste un truc, hein, une émission à la télé peut durer 20 minutes ou durer 4 heures, il n'en reste pas moins que le média qui est utilisé, c'est la télévision. Pour le jeu de rôle, c'est la même chose.
Ouais, ah. Des émissions de télé de 4 heures, tu m'en citeras pas des tonnes. Justement, quand tu différencies radio et télé, les longueurs d'émission ont rien à voir. Les radios, elles font des émissions de 3 heures, elles font du 6h, 9h le matin. La télé, t'as des émissions d'une heure, deux heures, des fois. Bon, si on oublie les émissions qui passent à 23h le soir, parce que, de toute façon,
On vient d'avoir une série d'attentats qui nous a poussé à avoir des émissions qui duraient plus de 8 heures.
Non, mais ça, tu peux pas, non, mais ça a rien à voir, c'est de l'info en continu, tu peux me placer qu'à pareil.
Non, en fait, si tu veux, je veux juste te pousser à distinguer le média des œuvres qu'il produit. C'est pas la même chose, tu vois.
Si, moi je pense que justement un livre, les livres sont longs, et à lire un livre quand tu le lis à haute voix, ça prendra toujours du temps, même les tout petits. Tu prends le livre là qu'avec comment il s'appelle, le bouquin tout petit là qui avait fonctionné il y a pas très longtemps là, je sais plus. Tu prends des bouquins qui font 30 pages,
un bouquin d'Amélie Nothomb
à lire, quoi. Ou non, mais des bouquins d'Amélie Nothomb, on a pour 2 heures à les lire à haute voix. C'est des formats qui sont longs, en fait.
Ok.
Et du coup, raconte.
Bon, je pense que là, de toute façon, on est un petit peu dans un débat qui finalement.
On va parler Jean-Michel un peu.
Tourne autour pas mal des définitions, c'est-à-dire qu'on est, Romaric parle d'une catégorie jeu de rôle qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus inclusive, il nie pas le fait qu'il y ait des sous-catégories, et en même temps, c'est vrai que t'insistes sur les différences qu'il y a entre le jeu de rôle assis autour d'une table,
classique et des trucs comme le JDR et l'improvisation. Et je pense en effet qu'il y a des différences très très importantes entre elles. Mais sur la question de quelles catégories sont pertinentes et quelles catégories sont pas pertinentes, on peut tenir des heures là-dessus. Donc je pense qu'on va peut-être passer à la question suivante, non ?
Sauf oui, si quelqu'un. Moi, je suis totalement d'accord avec toi.
Ouais. Donc, question 3, le jeu de rôle porteur de sens. Une question on ne peut plus classique qui concerne le jeu en général. La question du sens, du message que cherche à faire passer l'auteur, voire de l'aspect pédagogique de la chose. Une petite seconde. Ouais. Désolé. Ok, je couperai cette petite partie. Oui, il est possible de faire de la pédagogie, de faire passer des idées et des messages via des jeux. Les exemples sont nombreux, que ce soit du côté des jeux ludo-éducatifs, des jeux de rôle pédagogiques, d'ailleurs apparus avant le JDR ludique, ou des serious games pour ce qui est des jeux vidéo. Mais alors que Germinal de Zola est un roman à part entière, même s'il dénonce les injustices, alors que Lord of War est un divertissement grand public qui cherche en même temps à sensibiliser ce public, dans le domaine du jeu, ce sont des catégories à part entière qui abritent des jeux différents, proches du rapport qu'entretiennent films et documentaires. L'aspect ludique est moins évident, les jeux sont difficilement rejouables, parfois on ne peut pas gagner. Les jeux de Brenda Romero sont une caricature de ce phénomène, elle produit généralement ses jeux qu'à un exemplaire dont elle fait don à un musée. Alors bien sûr, on peut difficilement imaginer commercialiser un jeu de société sur l'esclavage ou la Shoah, mais du coup, est-ce encore un jeu ? Pourtant, de tels jeux, à la fois populaires et joués pour leur aspect ludique, dotés d'une thématique en adéquation avec leur gameplay et porteurs de sens, existent. Je pense entre autres à un jeu que pourtant je pense que nous détesterons tous ici, qui est le Monopoly. On a presque l'impression qu'il a réussi cette pirouette, justement au prix de l'oubli total de son sens initial. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de Monopoly qui sachent que le jeu avait pour but de dénoncer les dangers des monopoles. C'est aussi quelque chose qui évolue et il y a de plus en plus de jeux vidéo par exemple qui arrivent à être porteurs de sens et ludiques en même temps. Mais je voulais avoir vos avis sur cette dichotomie ou pas, et en particulier sur le jeu de rôle. Et je sais qu'il va y avoir des gens qui vont avoir plein de contre-exemples, je pense.
Je peux me permettre de commencer, ouais. Peut-être, comme j'étais moins actif à la fin de la dernière question. Go. Oui, effectivement, c'était la question qui m'a à la fois donné le plus à réfléchir, en même temps, j'étais pas très honnête sur là où tu veux aller avec la question, donc je suis curieux de voir ce que les autres vont amener. Mais je vais vous donner mes notes, encore une fois. Par exemple, au niveau, est-ce qu'on peut imaginer un jeu qui parle de la Shoah ? C'est quelque chose qui a été justement très problématique dans l'appel de Cthulhu. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de scénario ou de supplément qui se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est la difficulté d'aborder la Seconde Guerre mondiale dans un jeu de rôle pour le fun, comment est-ce qu'on présente la chose, etc. Et puis récemment, il y a deux maisons d'édition qui ont justement Achtung Cthulhu et World War Cthulhu qui ont sorti deux approches complètement radicalement différentes du même problème. L'une pulpiste en faisant du Indiana Jones avec des monstres de Cthulhu dedans, et l'autre en disant ben voilà, la guerre est horrible, mais on peut pas justifier. Hitler n'a pas fait ce qu'il a fait à cause des créatures du mythe. Simplement, l'horreur est humaine, elle n'est pas du mythe, mais simplement quand on est sur le champ de bataille, ben, il se pourrait qu'il y ait une créature du mythe qui se balade par là aussi, quoi. Mais bon, voilà, donc on peut aborder ces choses. Je pense que ça, c'était juste. Ben voilà, j'ai donné un premier contre-exemple à ce que tu disais. Sinon, oui, parce que je pense que ça donne, c'est pas mal. Moi, j'ai réfléchi tout de suite à des exemples, en fait. Alors, je vais dire, voilà, pourquoi est-ce que, par exemple, pour l'instant, je suis très fan de l'appel de Cthulhu ? Parce que ça présente une vision du monde athée, matérialiste. On sait que Lovecraft était extrêmement un matérialiste, mais vraiment extrême, où justement le monde n'a pas de sens. Les êtres humains sont comme des fourmis qui attendent d'être écrasés par les créatures du mythe, dans l'indifférence la plus totale. Évidemment, pour un athée comme moi, ça me parle, donc, et je pense que pour mes joueurs aussi. Donc, l'athéisme de l'univers ou du setting est un élément important du setting. Et pour terminer mon intervention, je veux proposer un contre-setting qui était évidemment Donjons et Dragons, qui est extrêmement problématique d'un point de vue idéologique, et qui est que, évidemment, on est dans un monde où, essentialiste, où quand on est une créature maléfique, on sera éternellement maléfique. Il y a des moyens de changer, mais je veux dire, c'est extrêmement raciste, en fait, Donjons et Dragons. Les personnages sont justifiés d'aller massacrer, de faire un génocide des orques juste parce que les orques sont chaotiques, mauvais par nature, donc c'est bon qu'on les slash, quoi. Et évidemment, dans les elfes, c'est l'exemple le plus type. Il y a les elfes maléfiques qui sont noirs et puis les elfes bénéfiques qui sont blonds aux yeux bleus, quoi. Je pense que la problématique de l'idéologie de Donjons et Dragons est assez évidente. Enfin, elle est dans Tolkien, hein. Je ne vais pas vous casser le cou. C'est dans Tolkien, c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Vous regardez les joyeux elfes, ils sont beaux et blonds, hein. Mais et donc je pense que moi ma réponse à ça c'est qu'évidemment si je fais du Donjon et Dragon évidemment je dis pas que je faisais ça quand j'avais 12 ans mais maintenant je pense que je problématise la question quand on va massacrer un village d'orques est-ce qu'on massacre aussi les femmes et les enfants par exemple est-ce que on a le droit de tuer un orque qui a 3 ans et qui est encore un bébé hein parce que c'est une créature maléfique je pense qu'il faut un maître de jeu responsable devrait problématiser ce genre de questions. Et voilà, maintenant, ce que ça m'a aussi évoqué, ta question, c'est évidemment tous les débats autour qu'il y a actuellement sur le jeu vidéo avec la violence et le sexisme dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire aussi, bah, on sait bien que c'est un loisir, on a juste envie de s'amuser, etc. Et j'ai envie de dire, parfois, pour déconner, on a envie de faire du Donjons et Dragons bête et méchant. Voilà, donc. Bref, c'est pas une réponse très structurée, c'était juste des réactions à chaud, mais je pense que j'ai donné assez d'exemples pour générer une discussion.
Je pense que tes exemples étaient très intéressants. Du coup, des gens veulent réagir, on continue le tour de table.
Moi, j'ai un milliard de contre-exemples aussi dans le jeu vidéo, mais bon, c'est pas très utile. Peut-être en citer que deux. Parce que pour moi, c'est la première grosse expérience vidéoludique où j'étais pas bien en jouant et je me suis rendu compte de choses, etc. C'est Paper Please, qui est un jeu de cette année, fin de 2014, où en gros on joue quelqu'un, un garde-frontière qui doit laisser ou non passer des gens et qui accessoirement, s'il paye suffisamment bien, il aura l'argent pour payer une famille qui est en train de tomber malade ou autre. Et puis des fois, il y a des patrons ou plus ou moins qui lui demandent de faire des trucs illégaux et s'il les fait pas, il se fait buter. Enfin bon, bonne ambiance quoi. Mais qui met vraiment une sacrée ambiance et là on peut parler de choses sérieuses. Et c'est un vrai côté ludique, parce que pour moi, tout ce qui est serious game, c'est juste des gens qui ont rien compris. Enfin, la plupart du temps, ils ont rien compris à l'aspect ludique d'un jeu vidéo. C'est souvent les jeux les plus chiants que t'as jamais vu de ta vie, les serious games. Alors que des jeux comme Assassin's Creed aussi te permettent d'avoir l'histoire, bon, même si le problème, c'est que tu sais pas ce qui est vrai et pas vrai dedans. Non, et l'autre exemple, par contre, qui va peut-être faire un peu écho à la partie qu'on a fait, c'est The War is Mine, où en gros, on est des gens pendant une guerre qui sont dans un bâtiment à essayer de survivre. Et où des fois on va piller les bâtiments d'à côté et tout. Ce qui est intéressant à ce jeu-là, et c'est là le parallèle avec la partie différente, c'est qu'on a un personnage qui a ses émotions propres et tout. Et si par exemple on fait des choses trop immorales, ben il peut arriver que le mec, on tourne les yeux 2 secondes et il s'est pendu, quoi, son personnage. Ça me fait penser un peu à la fin de notre partie où on pouvait devenir complètement dingue et avoir envie de se suicider si on faisait un truc ou je sais plus ce qui nous était arrivé à la fin de la partie. Enfin, le côté, c'est un peu ce que disait Jean-Michel sur les réactions du maître du jeu, de dire, ben voilà, le jeu réagit, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, mais il y a un moment où tu te rends compte que ben, ça marche pas, quoi, qu'il y a, il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est là où le jeu vidéo et sans doute le jeu de rôle prennent leur marque de noblesse, c'est quand tu as des réactions, et puis à côté de ça, comme t'as le gros film d'action qui tâche, t'as GTA, où tu peux prendre ta voiture pour aller éclater des grands-mères, parce que c'est rigolo, quoi.
Je suis pas sûr que GTA soit un si bon exemple de enfin je n'ai pas joué au dernier GTA. Ouais, non mais je pense que ça réfléchit quand même un petit peu, enfin de réputation, hein, je n'y ai pas joué. Je pense que prendre Call of Duty ou ce genre de choses
interprétées. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi j'en ai fait, j'y ai plus joué au dernier, mais où tu prends GTA, tu fous un maximum de bordel en ville et puis tu es content comme ça, tu peux aussi l'aborder comme ça, quoi.
Alors que
Paper Please, tu peux pas l'aborder juste pour t'amuser, en fait. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire.
Ok, je vais continuer le tour de table avec... allez, Guillaume, cette fois-ci Romaric va terminer. Guillaume ?
Ouais, je vais essayer de faire très très vite parce que le temps défile.
Le temps tourne.
Le temps tourne, mais l'idée c'est que, bon, évidemment, on peut en trouver des jeux de rôle porteurs de sens, on peut trouver des jeux qui apportent des informations ou de la pédagogie. Moi, clairement, je me place dans ceux qui ne sont pas sensibles à ça et qui n'attendent pas ça d'un jeu. Je fais partie des gens qui ne souhaitent pas quand je vis une expérience, je fais vraiment un témoignage perso, perso plus qu'une vision de société, hein. Mais de mon côté, quand je cherche une expérience de jeu, je cherche justement quelque chose d'un tant soit peu léger et gratuit. C'est un peu compliqué à définir parce que pour moi, ça peut être léger et gratuit d'être dans un environnement comme Vampire où l'environnement est relativement oppressant. Pour autant, j'essaye de pas y transposer du sens. Je fais partie de ces gens-là qui essayent de mettre un filtre entre l'amusement un peu gratuit sans trop y poser des responsabilités. C'est vrai que l'exemple des romans de Tolkien parle beaucoup parce qu'effectivement il se définissait lui-même comme quelqu'un de simple comparé à des gens qui ont des grandes idéologies, et il se définissait lui-même comme l'exemple du hobbit, c'est-à-dire le personnage assez anecdotique qui sert pas à grand chose que d'avoir une vie simple. Moi je fais partie des gens qui quand je lis Le Seigneur des Anneaux, quand je vois les films, quand je joue à des jeux, je m'identifie pas dans des messages comme ça symboliques. Alors peut-être à tort, peut-être que je devrais plus creuser les choses parce qu'il y a peut-être des vraies choses qui sont transposées auprès d'une société sans qu'on s'en rende compte et on devrait peut-être plus s'y intéresser, mais moi c'est vrai que c'est pas ce que j'attends du jeu de rôle à la base, quoi.
Juste avant que Romaric prenne la parole, j'ai envie de dire que moi je suis peut-être justement différent de Guillaume. Bon, évidemment, je suis meneur de jeu et c'est des questions qui m'interpellent vraiment, quoi. Je veux dire, si on dit on va jouer au Seigneur des Anneaux, voilà, je pense pas que ça soit neutre, que ça soit sans conséquence d'un point de vue sociétal, quel type d'idéologie. Mais bon, ça, c'est en fait finalement pas spécifique au jeu de rôle parce que voilà, c'est la même chose avec Star Wars où on a des gens qui ont le bon sang avec des midi-chloridiens dedans et ils sont supérieurs à tous les autres et les autres peuvent juste se faire massacrer sans problème. Je veux dire, si c'est le genre de message qu'on véhicule dans la société en large, c'est pas neutre. Donc moi c'est quelque chose que, quand j'ouvre un livre de jeu de rôle, ça me titille, quoi. Je regarde quand même ce qu'il y a dedans, quelle est l'idéologie que ça véhicule, quoi.
Alors, avant de laisser la parole à Romaric, je propose de ne pas dériver trop sur Tolkien. Je sais que la cellule, donc le podcast de Romaric, a fait un épisode entier dessus et qui a moyen de parler très très longtemps et de discuter sur le racisme ou pas de Tolkien. Donc, on serait sans doute pas tous d'accord à la table, mais c'est pas la question originelle. Et sur ce, je te lance.
T'avais peur que je parte en live sur Tolkien. Ouais. T'as bien raison d'avoir peur de moi, parce que je pars toujours en live et tu le sais, et c'est bon. Alors, d'abord, faut savoir un truc, c'est que le jeu de rôle porteur de sens, c'est l'une des thématiques principales du podcast de la cellule, hein, que tu viens de citer. Ouais, c'est vraiment, nous, notre cheval de bataille, de montrer justement que le jeu de rôle peut être porteur de sens. En fait, je crois que ça rejoint un petit peu la question 2, donc je vais pas refaire un speech sur ce que le jeu de rôle, mais en gros, pour moi, le jeu de rôle n'est qu'un média, et c'est un petit peu comme la télévision, finalement, je pense, j'entends l'objet, le meuble, hein, qu'on pose sur une table basse, c'est ou pas, hein, sur une table, tout simple, c'est finalement que ce qu'on fait passer à travers, eh bien, ça dépend de l'émission qu'on propose. Et l'émission, en fait, qui c'est qui la propose ? C'est l'auteur de jeu. Et comment, en fait, l'émission est structurée ? Elle est structurée par un système, un dispositif. Donc là, on a beaucoup parlé ensemble du dispositif classique, hein, meneur et des joueurs. On voit que pour vous, ça a l'air d'être le dispositif du jeu de rôle en règle générale. Mais voilà, il y a d'autres dispositifs qui existent. Et fonction du dispositif qu'on met en place, ça va inciter les joueurs autour de la table à créer en fait des contenus fictionnels qui vont être variables, et certains de ces contenus fictionnels vont pouvoir être juste divertissants, c'est un petit peu ce que recherche Guillaume, hein, dans son approche, et d'autres vont pouvoir être plus de l'ordre de la réflexion, c'est exactement ce que recherche finalement Jean-Michel. Alors pour troller, hein, parce que vous savez que j'aime ça, j'ai envie de finir en posant une question à Jean-Michel. Est-ce que tu crois vraiment que par exemple D&D soit le meilleur jeu pour poser la question de massacrez-vous les femmes et les enfants dans le village que vous venez de piller?
Le meilleur jeu.
La question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que D&D possède un système, met en place un dispositif qui est suffisamment qui est tourné autour de ce type de questions?
Non, c'est pas, bien sûr que non, c'est pas l'objectif de D&D de poser ce genre de questions, mais justement, c'est finalement ce que je disais, c'est en proposant, en disant qu'en maître de jeu, je suis intéressé par... Pour moi, en plus, le problème dans le D&D, c'est même pas tellement le dispositif, ça va être surtout l'univers généralement qui est proposé, le setting, quoi. Mais évidemment, il y a d'autres dispositifs
Voilà, je pense en fait
des choses différentes, quoi. Mais
moi, je vous invite tous à regarder un jeu extraordinaire, un jeu de Vincent Baker, probablement le meilleur jeu de rôle au monde à l'heure actuelle. C'est un jeu qui s'appelle Dogs in the Vineyard, qui est donc un jeu de Vincent Baker, hein, qu'on trouve sur son site. Enfin, vous tapez Dogs in the Vineyard, vous allez trouver le site de l'auteur et vous pouvez l'acheter. C'est un jeu dans lequel justement ce type de question va être central, Jean-Michel. Et je pense que vu les questions que tu souhaites aborder à travers tes parties d'AD&D, je pense que le système de Dogs sera beaucoup mieux pour aborder ce type de questions. Et puis dernière, un petit peu comme une conclusion de mon intervention, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Moi, il faut savoir que j'ai créé un jeu qui s'appelle Sens. Donc le jeu de rôle porteur de sens pour moi évidemment, mais je pense que David savait à qui il s'adressait en posant cette question.
Oui, oui.
Évidemment. Évidemment, pour moi le jeu de rôle est porteur de sens et c'est ce que j'essaye de défendre à travers mon propre jeu. Donc voilà. Et moi, loin d'être un athée réaliste justement, j'essaye de donner une autre vision du monde que celle que tu défends, Jean-Michel.
Ouais. Peut-être pour répondre plus sérieusement à la question que tu me posais à propos de Donjons et Dragons, je dirais que de toute façon les jeux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit l'appel ou Donjons et Dragons, on en fait, enfin il y a quand même justement on se l'approprie et puis chaque meneur de jeu en fait aussi, il y a une part d'appropriation du meneur de jeu, donc je pense qu'effectivement on peut soulever les questions dont je parlais à travers Donjons et Dragons. Ça va tout dépendre du meneur de jeu, s'il y a un meneur de jeu évidemment, parce que comme alors, tu nous le rappelles, il y a pas toujours de meneur de jeu, je sais bien.
Alors moi je crois que le système les systèmes des jeux dont tu parles n'est pas fait pour cela en fait, et je crois que justement tu cherches à faire à utiliser un marteau pour réparer, pour visser un clou.
La raison pour laquelle j'utilise un marteau pour visser un clou, c'est que bon, on a parlé à un moment donné du nombre d'éditions des jeux, mais évidemment si tu prends les chiffres, même évidemment un best-seller en France du jeu de rôle, ça se vend pas énormément, on est bien d'accord. Je veux dire, le premier jeu le plus joué en France, ça reste quand même toujours encore Donjons et Dragons dans ses multiples éditions, 3, 3.5, 4. Deuxième jeu le plus vendu en France, ça reste l'Appel de Cthulhu, Gods in the Vineyard, je ne sais pas, enfin le jeu dont tu parlais, je ne sais pas à combien il se vend, mais certainement pas à grand chose. Donc il faut aussi s'adresser à quel jeu les gens rejouent réellement, quoi, et pas toujours
excuse-moi Jean-Michel, mais ton argument, il revient à dire que parce que la majorité des gens regardent Le Juste Prix et Vincent Lagaffe, il faut évidemment ne faire que des émissions comme Le Juste Prix et Vincent Lagaffe. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fait évoluer un média et qu'on tu vois, je pense que attention à
non, mais c'est pas du tout mon argument. Je pense pas qu'il fallait faire que des jeux dans ce style-là, mais moi je partais d'un constat que Donjons et Dragons reste le jeu le plus joué dans le monde à l'heure actuelle de type jeu de rôle, et c'est dans cette optique-là que j'évoquais la question de la problématique de l'idéologie derrière, tu vois. C'est pas dans une question que je vantais les mérites de Donjons et Dragons de ce côté-là, quoi.
Et non, mais Donjons et Dragons est un excellent jeu pour faire ce que Guillaume proposait tout à l'heure, en fait, hein, je crois, hein, pour se distraire, pour taper du monstre dans des donjons, pexer son personnage, améliorer son personnage, passer un bon moment autour de mécanique avec des amis, il n'y a aucun problème. C'est probablement d'ailleurs le meilleur jeu ludiste au monde, hein, Donjons et Dragons. Donc,
mais c'est ce qui fait qu'il a autant de succès aussi à la base. Hein.
Absolument, Guillaume, tout à fait. Tout à fait.
Je vais me permettre, avant de passer à la conclusion, pas à la conclusion, mais à la quatrième question, de rajouter une petite réponse personnelle à la question que j'ai posée. Oui, je triche. mais je pense que c'est pas nécessairement parce que un jeu de rôle n'a pas, ou quoi que ce soit, quelque œuvre que ce soit, et je pense que ça va dans le sens de vos réponses, mais ça n'a pas été formulé comme ça. C'est pas parce que quelque chose ne se pense pas comme étant porteur de sens qu'il n'est pas porteur de sens. Et quelque part, c'est plus problématique de temps en temps quand quelque chose ne se veut pas porteur de sens mais qu'il l'est à son corps défendant. La polémique autour de Assassin's Creed et Jean-Luc Mélenchon était un très bon exemple. J'avais été choqué d'entendre dans des podcasts tournés autour de jeux vidéo des gens en train de défendre l'aspect purement ludique du jeu vidéo et d'Assassin's Creed et de dire un petit peu plus en disant oui non mais on n'en a rien à foutre, de toute façon personne ne s'intéresse au sens, ça porte pas de sens particulier, ça m'influence pas, je suis juste en train de jouer. Et 5 minutes plus tard, le même mec en train de dire, n'empêche quand même, je me suis rendu compte en jouant à Assassin's Creed que les monarchistes, ils étaient vachement sympas. Ni vu ni connu, hop, continuant sa discussion comme si de rien n'était, et sans se rendre compte que c'était un excellent exemple du fait que oui, il y a un sens et il faut le penser, même. Voilà, bon, bref.
Tout à fait d'accord.
Sur ce, je me permets peut-être de passer à la dernière question de notre débat.
Yes.
Une question qui vient de Jean-Michel, initialement. Donc, jeu de rôle, univers et représentation. Alors, je me suis permis de la reformuler. Je ne sais pas exactement ce que ça va, si j'ai pas trahi ta question originelle. Enfin, dernière question. On présente souvent les JDR comme ayant l'avantage de n'être limité que par l'imagination des joueurs et du MJ. Pareil pour ce qui est de la littérature. Pourtant, les créatures extraordinaires ou fantastiques, en particulier les extraterrestres, et en particulier s'ils sont joués par les personnages joueurs, par les joueurs, sont généralement vus comme des humanoïdes, alors que, par exemple, Lovecraft avait, dès la première moitié du XXe siècle, fait de gros efforts pour imaginer des aliens tout autres, ça c'était mot, puisque les créatures du mythe sont en fait donc des extraterrestres. Des idées d'explication, est-ce que c'est... Enfin, pourquoi qui veut
ouais. tu parles, excuse-moi, juste une précision, tu parles des personnages joués ou des personnages du scénario en général
J'ai rajouté, ça c'est moi qui le dis, je pense que c'est particulièrement vrai pour les personnages joués, mais ce n'est pas vrai que pour les personnages joués, il suffit de voir pour le coup en dehors du jeu vidéo, il suffit de voir Star Wars est peuplé de personnages humanoïdes, enfin l'univers de, et pour le coup là on n'est pas dans un jeu de rôle, il n'y a pas de contraintes particulières, pas de raison évidente me semble-t-il. À ça, de type identification du joueur. Enfin, s'il peut y avoir des raisons d'identification, je suis en train de me perdre en répondant à ta question. Et je vais donc vous laisser la parole.
j'en profite pour attraper la question au vol parce que c'est peut-être la question qui m'a le plus parlé finalement dans toute la préparation et sur laquelle j'ai essayé de plancher le plus. Je me suis rappelé, alors je sais plus quel était le système de jeu, mais j'ai fait une partie jeu de rôle une fois en tant que joueur. J'avais préparé un personnage où en fait on pouvait se baser sur un certain nombre de défauts du personnage pour avoir des avantages en face et grosso modo j'en étais arrivé à la conclusion qu'on pouvait presque faire un personnage sourd, muet, aveugle et invalide total physiquement et qui avait des super pouvoirs. Donc évidemment, on n'est pas tombé là-dedans, mais j'avais fait un personnage qui avait un handicap, il me semble que j'étais muet ou un truc comme ça. Et finalement, ça s'est avéré être déjà une expérience hyper compliquée et très déstabilisante. Alors c'était peut-être juste déstabilisant pour moi, mais c'était super compliqué et j'en ai un souvenir à la fois très agréable parce que c'était très différent d'habitude et très désagréable parce que ça me mettait très mal à l'aise de par mes relations avec les autres joueurs et avec le MJ aussi en particulier. Et du coup, je me suis dit que est-ce que finalement c'est vraiment si possible que ça d'interpréter dans des jeux de rôle des personnages qui sont pas justement très proches de ce qui fait qu'on est les uns les autres en communication de manière aussi fluide. Est-ce que c'est pas justement parce que ne serait-ce qu'une personne qui a un handicap, c'est déjà suffisamment difficile comme ça à interpréter et à jouer. Donc du coup, avoir autre chose qu'un être un tant soit peu humanoïde, j'ose à peine imaginer le rôle que ça peut jouer, quoi. Enfin, quel le résultat que ça pourrait donner. Je ne sais pas si j'étais dans le sens de ta question. Si j'étais dans le sens de ta question d'ailleurs.
Si, si, tout à fait.
Après, moi, ça m'a tout à fait parlé ce que tu viens de dire, Guillaume. Excuse-moi, David.
Non, mais je me souvenais, pour aller dans le même sens, moi, la toute première partie donc, de jeu de rôle qu'on avait fait, où on appelait ça le jeu, ça s'appelait pas du jeu de rôle, on avait un joueur donc, qui dirigeait une flotte extraterrestre qui était arrivé sur Terre, et j'avais, en tant que MJ, géré ça de manière absolument, de mon point de vue, réaliste, mais c'était hyper frustrant pour le joueur, c'est-à-dire il essayait d'entrer en contact avec des terriens, et... il me disait, je vais leur dire, machin. Oui, non, ils comprennent pas ce que tu dis. Je leur montre. Oui, ta morphologie, t'essaies de leur montrer, manger, ils s'enfuient en courant, ils comprennent absolument pas. Et le joueur l'avait assez mal vécu, au final. Alors, à l'époque, on était au collège, donc on trouvait, enfin, moi, je trouvais ça drôle, les autres joueurs trouvaient ça drôle, donc on s'était pas tellement préoccupé du fait que le joueur l'avait mal vécu. Mais ça me semble illustrer pas mal le problème. Je vous laisse continuer. Je crois que Nico était bien chaud pour enchaîner.
Ouais, bien chaud vite fait. C'est juste que ça me faisait rebondir sur un truc. Bon, alors moi là-dessus, ça va pas être des expériences de jeu de rôle comme d'hab, vu que j'en ai pas fait suffisamment. Mais en improvisation, ça nous arrive ça m'arrivait parce que j'en fais plus trop, de jouer des extraterrestres ou en essayant qu'ils sont non humanoïdes. Bon, alors comme on est deux jambes sur une scène, en général, ils ont deux jambes, quoi. Mais souvent, ça se passe pour vraiment incarner et ensuite de se mettre une contrainte physique, typiquement d'avoir un bras qui est toujours au-dessus, et de s'habituer à cette contrainte physique pour justement réussir à peu près l'oublier et après vivre sa vie d'extraterrestre, quoi. Et je pense que un des aspects qui est peut-être un peu plus compliqué dans un jeu de rôle où justement il n'y a pas le physique, ça va reboucler avec le début, c'est de réussir à oublier sa contrainte tout en étant dépendant, quoi. Je sais pas si je suis clair. Et ça rejoint ce que tu disais à mon avis, Guillaume, qui est que c'était hyper dur pour moi, mais ouais, parce que t'étais obligé de à chaque fois te rappeler que avant de jouer, t'avais cette contrainte-là au lieu de te dire. C'est naturel maintenant, c'est bon, ça fait une demi-heure que tu joues, c'est ta contrainte, point barre, quoi.
Moi, je crois que les contraintes physiques sont vraiment les plus particulières. Avoir, encore une fois, des tics de langage, avoir des attitudes qui sortent de ce qu'on est d'habitude, on peut interpréter un jeu de rôle comme ça, dans cette limite-là. Vraiment, quand ça sort de ce qui fait qu'on a des repères d'échange de communication, qu'ils soient visuels, d'attitudes ou de paroles les uns les autres au quotidien, ça me paraît super compliqué. Mais bon, peut-être que quelqu'un a une expérience ou un contre-exemple, peut-être.
Encore une fois, le but du jeu de rôle est de penser des situations possibles. Comment est-ce que les humains pensent ? Ben, ils pensent avec leur langage. Ils pensent avec les propositions qu'ils jugent sensées. Une proposition sensée, c'est quoi ? C'est une proposition qui fait référence à un fait. Une proposition qui peut être soit vraie, soit fausse. Sachant que, par exemple, si je dis « Cain est le premier des vampires », la proposition n'est ni, enfin, elle peut être vraie ou elle peut être fausse. D'ailleurs, elle est fausse puisque on sait bien qu'il n'y a pas de vampires tels qu'on les définit en tout cas et qu'il n'y a pas un vampire qui s'appelle Cain dans le monde, etc. Donc, à partir de là, à partir du moment où le jeu de rôle passe par de la communication verbale, parfois non verbale aussi, mais souvent quand même verbale, le jeu de rôle est tributaire du sens que l'on donne à nos propositions. Aux situations possibles qu'on est capable d'imaginer. Donc, partir de là, oui, il y a des limites. Les contraintes sont fixées, en fait, par notre compréhension de notre langage, je crois. J'ai pas vraiment compris la question. J'espère que je suis pas à côté de la plaque avec cette réponse.
Non, je pense pas que tu sois à côté de la plaque. Après, c'est, moi, ce qui m'intrigue, et je pense que ce qui intriguait aussi Jean-Michel quand il a posé cette question, c'est, c'est une contrainte, c'est un problème qui est assez ancien. Alors, est-ce qu'on n'est absolument pas capable de le surpasser, ne serait-ce que par notre imagination est-ce que c'est juste qu'on n'a pas encore imaginé comment le surpasser? Et c'est vrai que le fait qu'il y ait quand même quelques contre-exemples, comme en effet la mythologie de Lovecraft...
La mythologie de Lovecraft, elle n'est pas insensée. La mythologie de Lovecraft, elle est totalement sensée. C'est juste des chimères, ces créatures. Ce sont des chimères, c'est-à-dire ce sont des créatures composées de d'autres créatures possibles.
Si je peux me permettre, juste parce qu'en fait, surtout que David dit, comme c'est la question de Jean-Michel, mais en fait, cette transformation de la question n'a absolument aucun rapport avec la question que j'avais posée.
Je suis pas grave.
Mais juste comme on m'attribue des choses, Jean-Michel a dit que... C'est pas grave, ta question est intéressante, David. Hein. T'as projeté beaucoup de choses sur ma propre question qui n'avait rien à voir, mais...
Pour reprendre les entités de Lovecraft, comment dire, dire que les entités de Lovecraft sont absurdes, c'est encore faire une proposition, énoncer une proposition qui est douée de sens. Mais l'absurdité, ça a un sens.
Laisse-moi un peu expliciter tout ça, parce que je crois qu'il y a un peu de malentendu. Parce qu'en fait, ma question à moi que j'avais envoyée originellement dans la liste d'emails, c'était en me disant, on va parler de la dernière partie qu'on a jouée. Je voyais qu'aucune des questions n'évoquait la dernière partie. Je me dis, on va au moins poser une question qui portait sur la dernière partie. Surtout qu'on était un peu lié à Podcast Science, etc. Donc je me dis, David avait l'air de dire, on va poser des questions un peu de ce type-là. Et donc je me suis dit, une des innovations de Lovecraft, c'est qu'évidemment, avant lui, les extraterrestres étaient toujours représentés d'une certaine façon, humanoïdes, etc. Enfin, pas toujours, évidemment, parce qu'il y a la guerre des mondes. Enfin, bon. Mais je veux dire, l'originalité de Lovecraft, ça a été surtout de créer un nouveau répertoire visuel, enfin, de monstres, quoi. Hein. Et donc, c'était simplement pour faire un callback, un rappel de la dernière partie, et peut-être débattre un peu du contenu de la dernière partie. Bon, ça, c'était ma question à moi, et liée justement à Lovecraft. Maintenant, la question telle qu'elle est devenue, elle est sympathique, hein. Ce que j'ai pris comme note rejoint très fort ce que vous avez dit. Pascal Boyer, peut-être que certains connaissent, qui est un anthropologue, a publié il y a une dizaine d'années L'homme créa les dieux, hein, donc qui est un ouvrage qui a fait date un peu en psychologie de la religion. Et, en, et donc, évidemment, lui, sa grande, il parle évidemment des superstitions et des croyances en tout genre. Et il montre évidemment qu'on est quand même limité dans le répertoire qu'on a. Hein, par exemple, en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir quelque chose de normal avec une seule violation. Par exemple, un fantôme, c'est un être humain normal, mais qui est intangible. Un loup-garou, c'est un être humain normal, mais qui peut se transformer en loup, etc. Mais par exemple, on n'observe pas dans les folklores et les superstitions des entités qui cumuleraient beaucoup de violations de ce type-là. On n'imagine pas un arbre qui parlerait, qui serait intangible et qui en même temps n'existerait que le mercredi, le jeudi et le samedi, par exemple. Ça devient... On ne trouve pas de folklore de ce type-là. Donc il y a des règles dans l'imaginaire humain, quoi. L'imaginaire humain n'est pas illimité, en fait. Et donc, forcément, je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le jeu de rôle et dans tous les imaginaires. On retrouve ce type de limitation liée à la cognition des êtres humains. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez. Et puis, moi, j'avais un autre élément, et on a un peu évoqué ça précédemment. C'est évidemment le jeu de rôle, s'il se base dans une... Il a tendance... C'est la réappropriation d'autres médias. Particulièrement le média littéraire, là je révoque des choses qu'on a déjà évoquées. Bah, évidemment, ces autres médias avaient des limitations, eux, que le jeu de rôle n'a peut-être pas, puisque évidemment on peut faire ce qu'on veut avec l'image. Enfin, on a un budget illimité, je dirais, dans notre tête, au niveau des effets spéciaux, mais par rapport à d'autres jeux. Mais évidemment, si par exemple je décide de prendre, moi je suis un fan de Star Trek, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Prime Directive, et puis il y a eu plusieurs itérations d'un jeu de rôle Star Trek. Bah, si je dis à mes copains, on va faire des parties du jeu de rôle Star Trek, bah, forcément, dans mon jeu de rôle Star Trek, où évidemment il y a le jeu de rôle Star Wars qui est même encore plus connu, c'est vrai, bah, mes extraterrestres seront tous des humanoïdes. Évidemment, je vais limiter mais je veux dire, ils vont se baser sur les extraterrestres tels qu'ils sont présentés dans Star Trek. Et dans Star Trek, la limitation, bah, c'est qu'ils n'avaient pas le budget. Enfin, à l'époque, il fallait maquiller des êtres humains pour faire des extraterrestres, tout simplement. Donc, c'était une autre direction de réponse, quoi. Mmh. Voilà.
C'est intéressant. Hein, le budget, et juste pour finir, le budget, il peut être intellectuel aussi. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas le budget intellectuel, c'est-à-dire on n'a pas l'intelligence, on n'a pas les ressources et la force mentale d'imaginer plus que ça. Quand tu parlais du loup-garou tout à l'heure, je pense que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que alors moi, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Mechanical Dream, qui est un jeu de rôle dans lequel les auteurs, vous connaissez Mechanical Dream ou pas?
Non.
Non. Donc c'est un jeu de rôle dans lequel les auteurs, juste, peut-être David, tu voulais conclure, je sais pas.
Parce que oui, dans ce jeu de rôle... vas-y, termine ton...
dans ce jeu de rôle-là, si vous voulez, les auteurs ont voulu faire un univers qui est tellement différent d'une autre que le jeu en devient incompréhensible. C'est-à-dire qu'au final, le jeu est injouable parce que les créatures sont trop complexes. Elles ont même des manières de penser le monde qui sont totalement différentes de nous. Alors c'est très intéressant d'un point de vue justement anthropologique, comme tu dis, c'est très loin de Boyer. Hein. Là, on est vraiment dans le cas où justement tout le monde est vraiment autre, absolument autre, totalement différent, à tel point qu'on ne peut pas jouer à ce jeu parce que justement ça demande une ressource, des ressources intellectuelles dont ne disposent pas les êtres humains. Le budget, il peut être intellectuel aussi, et malheureusement, on n'a pas toujours le budget intellectuel de jouer à ce genre de jeu.
J'ai une petite question là, d'ouverture, enfin, à vous tous, là, qui connaissez plus ces jeux de rôle que moi. Et est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de rôle où il y a un personnage qui parle une langue extraterrestre que les autres ne comprennent pas?
Oui, moi j'en ai même créé un, ça s'appelle Sens Néant, c'est le troisième opus de Sens. Il parle avec via des sentiments et des...
C'est un personnage joueur?
Oui, tout à fait. Ils ont deux sensations. Ils ont même deux sensations différentes par rapport aux humains, que sont le mantis et l'alvéa, donc qui permettent de voir le monde d'une manière différente.
Ah, moi, je t'ai donné un exemple tout à l'heure, donc oui.
On peut aussi citer
mon joueur qui joue un extraterrestre et qui du coup ne pouvait pas communiquer avec les terriens parce qu'il n'avait pas de langue. Il n'avait pas de langue en commun.
Ah oui, c'est vrai. Question pour rien. Désolé.
On peut aussi citer Shaan, juste 30 secondes, citer Shaan, qui est un jeu dans lequel on joue des extraterrestres qui sont en train d'être colonisés par les êtres humains. Donc ça, c'est intéressant parce que ça renverse les rôles, hein. On n'est plus les colonisateurs, mais on est les colonisés. Et dans ce jeu, il y a également des créatures qui ont des sensations différentes, et donc qui impliquent des visions du monde très différentes. C'est passionnant, c'est vraiment un jeu extraordinaire.
Je pense qu'on va conclure parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que s'il y a bien marqué 19h19 sur mon ordinateur, c'est parce que je suis en Irlande. Le podcast a duré un petit peu plus longtemps que ce que je croyais durant les 40 dernières minutes. Du coup, je...
merci David de nous avoir coupé toutes les deux minutes, comme tu avais promis de le faire.
Je suis désolé.
Bon, on savait très bien que ce serait pas le cas, que ça durerait pas le temps.
Non, en fait, on t'a jamais cru, David.
On l'a jamais cru.
Et au début, je
croyais... Qui a décidé que David serait maître du temps, il y a...
Eh, c'est moi qui organise le débat du coup. Non, non, mais au début je chronométrais et au début vous étiez nickel dans les deux minutes et c'est parti en.
Je veux dire au début dès que Romaric a parlé, c'est ça là.
Non, non, non. La première question, il n'y a pas eu de souci. C'était bien. C'est exactement. Non, non.
Votre première question.
Ouais.
David. Mais...
Oui.
David, le jour où tu voudras faire un podcast structuré, surtout ne m'invite pas, c'est pas la peine. Avec moi, ça part en live tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est le concept, pas, en fait. C'était pas si catastrophique que ça, je pense. Mais mais j'aurais dû. Il y a un gros moment où vous avez beaucoup digressé, où j'aurais dû vous couper, mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte trop tard. Et en fait, c'est parti en couille à partir de la réponse en quatre parties à la deuxième question de Romaric, où du coup, après, quand je chronométrais Jean-Michel, je voyais qu'il dépassait, mais en même temps, Romaric avait déjà fait 5 fois plus long que le temps imparti.
Le truc, si tu veux, c'est que mes réponses aux autres questions étaient tellement courtes par ailleurs que je me suis dit, allez, j'ai bien le droit d'avoir une petite question longue.
Deux minutes, quoi. Deux minutes pour les autres. Non, celui qui a été rapide, c'est Guillaume. Et dans une moindre mesure, Nico, une exception près, a été assez concis dans ses réponses.
C'est ma faute. De toute façon, je prends
t'es en train de donner des points aux élèves, là.
Exactement, tout à fait. je mets des points. Non, mais de toute façon, enfin, il y a pas de, enfin celui qui a, on sait qui a pris le plus de temps, enfin il y a pas match à ce niveau-là. Mais c'était quand même très cool, je trouve.
Ah ouais, moi j'ai plein de questions à vous poser en plus.
On pourrait en refaire un, mais en tout cas là faut qu'on arrête par contre, parce que ça va devenir vraiment trop long pour les gens qui vont écouter.
On fera un podcast de la cellule, là. Arrête-toi.
Eh bien, c'était fort sympathique. J'espère que vous avez apprécié la petite expérience, tous. En tout cas, moi, je me suis bien amusé.
Ah, c'était très intéressant. Très
captivant. Et on va dire au revoir aux auditeurs.
Merci. Au revoir, les gars.
Au revoir. Ciao, ciao.
Salut. Ciao, ciao.